C'est parti?
Chacun sa route.
Chacun son masque.
Allez, 3, 2.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Camille.
Ouais, c'est mon premier, oui.
Eh ben ouais, faut bien changer. Hicham.
Bonjour.
Et nous avons... pour cet épisode, encore la joie de recevoir Manon Bril. C'est un pseudo.
Trop gentil de revenir sur vos épisodes.
Ouais, ça, c'est ouais j'ai refait du trajet. Ah,
faire le trajet
chiant.
Et tout.
Ouais.
Mais... Tu sens qu'on a des fans hardcore.
Ouais, je suis impliquée.
Mais voilà, l'abnégation, là, vraiment. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, on est très, très contents. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté... Les... Déjà, est-ce que ça va?
Bah écoute, oui, c'est fou parce qu'il neige encore, c'est waouh.
Ouais, alors vraiment, hein, du coup, vous pouvez encore deviner quand on enregistre. mais ouais, c'est très... Il neige, bah, il y a un peu plus de neige que la dernière fois.
C'est
comme,
vrai.
Comme quoi, ouais, la météo, ça change.
De plus, ouais.
C'est un titre. Oh.
Mais, t'es en forme, hein?
Ouais, bah voilà, ouais, grosse pêche. Hein. Bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc.
Oui,
ça,
c'est vrai. On va peut-être arrêter là.
Oui.
Sur, hein,
ouais,
voilà.
Ouais. Mais bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode d'il y a deux semaines et qui se demanderaient qui est Manon Bril, mais mon Dieu, peux-tu te présenter?
Bonjour, je suis Manon Bril. Oui, c'est un pseudo. J'ai une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire. J'ai un discours bien rodé. C'est une chaîne YouTube qui parle d'histoire autrement. Allez, écoutez notre épisode. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, c'est vachement bien. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup.
Et dont c'est TikTok.
Oui,
dont TikTok. Ouais. Tout sauf Snapchat. J'ai pas Snapchat. Voilà.
Ouais, bah, moi non plus. Mais maintenant, c'est vachement bien. On vous recommande plein de vidéos ultra intéressantes et ultra accessibles. Et c'est très chouette.
Merci. Voilà.
Et bah ouais, ça me fait plaisir de vous retrouver aussi, toute blague à part. Et aujourd'hui, ce sont Camille et Ichouchou qui nous... oh, je vais peut-être parler dans le micro quand même, mais Camille et Ichouchou qui vont nous parler d'un chouette sujet. Mais lesquels sont-ils?
Et ben moi, je vais vous parler enfin
ah,
de la piraterie.
C'est pas trop tôt,
ouais. Un an qu'on l'attend.
Les pirates.
C'est un peu ça, ouais.
Bon, bah, les Borgias, on les attend depuis la saison 1. Hein, mais,
oui, je sais, mais aussi. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, est-ce que je ferai pas les Borgias la prochaine fois? Ça se trouve, 2021 va être l'année de tous les sujets du placard,
ah,
tu vois.
Bah, tous du bois.
Alors, donc, les pirates, ça, oui. On voit, du coup, globalement...
Bah, les pirates, tu sais, le mec qui a le cache-œil, ouais. Le... À la chance.
C'est vraiment comme ça?
Ben, on verra.
Suspense.
Je sais pourquoi le cache-œil. Et donc Ichouchou.
Puis ensuite c'est moi avec une belle chronique animalière.
Yes. Oui.
Il y aura du oh c'est mignon, du what the fuck, des conversions de inch à des centimètres. Vous allez voir, vous trouvez plein de comparaisons bien sympathiques avec un jingle au top.
J'ai cru que t'allais parler des inch.
Fais attention parce que tu te survends là. Donc
ah non mais moi je kiffe mon jingle. Ça fait genre ça fait 24 heures que je vous
douce modestie
avec ça. Mais moi je le kiffe.
Voilà donc par contre tu ne seras pas surpris si notre action c'est
Il n'y a pas de
soucis. Ouais, non, tellement...
non, moi je vais tout donner, je serai là.
Merci.
Mais c'est ouf, mon Dieu, j'achète mon casque.
Bon, bah j'ai hâte en tout cas, vous nous avez chauffé de
super.
Ouf. Et bah je propose qu'on aille déjà mettre. Qu'on se jette à l'eau. Ah
c'est parti.
On revient se joindre à mon équipage, maître Tarnal.
À quoi ressemblerait le monde sans.
Le capitaine Crochet.
Fouquez les Artémuses.
Pirates. Encore des bien belles refs.
Ouais, hein, c'est oui, toujours. donc oui, je vais vous parler de la piraterie. Alors, c'est hyper vaste parce que la piraterie a toujours existé. Enfin, en gros, depuis que les échanges commerciaux existent, la piraterie existe. Donc, faire tenir ça en 15-20 minutes.
Non.
Non, exactement. Donc, s'il y a des fans des pirates parmi vous, t'as pas parlé de ça, je peux pas parler de tout. Donc, oui. J'ai fait des choix, j'ai coupé dans les grandes lignes et vous devrez vous en contenter. Voilà.
Voilà. Mais par contre, si vous avez des choses à rajouter,
bisous.
Bah, faites-le.
Mais ajoutez, et puis genre, ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit depuis longtemps, mais qu'on a déjà dit pas mal de fois. Si vous voulez nos sources, faut pas hésiter à nous écrire. On répond, je crois, à tous les messages.
Oui, tout à fait.
Je pense pas qu'il y ait des messages.
Oui, en répondant.
Mais où est-ce qu'on peut vous écrire ?
Oh là là, mon Dieu, c'était même pas
pareil. Chez Elias, il y a une très grosse boîte aux lettres.
Facebook, Twitter, Instagram et par email aussi, on reçoit des emails fréquemment.
Oui.
Et puis même si vous voulez qu'on publie l'épisode et que vous avez des trucs à dire dessus, bah, vous pouvez commenter directement le post. Comme ça, tout le monde pourra profiter de votre savoir.
Absolument. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez mes sources sur. Sur la piraterie, il y a plein de petits bouquins sympas. Il y a quand même pas mal d'historiens qui se sont intéressés au sujet et qui ont fait des choses tout à fait digestes à lire. Donc,
tu connais Pirates des Caraïbes ?
C'est, écoute, c'est d'un très très grand auteur historien de l'époque moderne.
J'ai un pote qui a fait sa thèse sur les pirates de l'Antiquité.
Ah, mais c'est passionnant en vrai. C'est, ben justement, on va commencer par l'Antiquité.
Ben voilà.
Allez, c'est parti. Alors, donc la piraterie, elle existe depuis au moins l'Antiquité. On dit depuis l'Antiquité, on n'a pas vraiment de source avant. Et en fait, elle trouve effectivement son origine dans les premiers voyages en navire. Pour contourner les montagnes, les déserts et de gagner du temps, parfois, tout simplement, on va très rapidement, dès qu'on sait maîtriser les bateaux, faire des échanges commerciaux par la mer ou par les fleuves. Donc, il y a ces gros bateaux blindés de marchandises. Donc, il y a des trucs à voler. Donc, bah, il y a des voleurs. C'est aussi simple.
Mais du coup, c'est associé à la navigation, en fait. C'est pas une activité...
C'est très récent, aujourd'hui, de dire, par exemple, pirate pour, effectivement, l'informatique, etc. Mais pirate, c'est vraiment du banditisme fluvial. Des mers. Et fluvial, voilà.
C'est la caste en dessous, les pirates fluviaux.
Mais sur Internet aussi, on navigue.
Ça peut être les mêmes, hein.
C'est vrai.
Oui, exactement. Mais je pense que pour moi, c'est lié à ça. J'avoue que j'ai pas vérifié, mais oui. Mais pour moi, comme on navigue sur le web, bah, c'est les pirates du web, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, on a pas mal de sources qui datent de l'époque de la République et de l'Empire romain, parce que bah, déjà, les Romains, ils ont un gros somme contre les pirates. Il y a des pirates qui pullulent partout en Méditerranée. Les Romains, ils ont des cargaisons, bah, notamment, ils ramènent du blé d'Égypte. Pouf, il y a des pirates qui passent, qui pillent tout. Donc, on a beaucoup de débats à Rome sur comment est-ce qu'on peut contrer les pirates. Et il y a même une petite histoire de piraterie qui est bien connue à cette époque. Vers moins 75 avant notre ami Jésus-Christ, on a un autre ami, Jules César, les mêmes initiales, c'est incroyable, qui a environ 25 ans c'est à vrai. Cette époque-là, et qui partait voir un mec philosophe pour apprendre un petit peu, enfin continuer à se former, à faire son apprentissage, qui habitait de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il prend un bateau, notre Jules César, et vers la Turquie, il se fait enlever par des pirates, dis donc. C'est l'histoire.
Jules César.
Jules César.
Mais il était quoi à ce moment-là ?
Il était rien du tout. Ouais. Enfin, il était juste fils de riche patricien romain, mais
c'est pour une rançon.
Exactement. Voilà. Il était pas encore dictateur. Il était pas encore chef des armées ou quoi que ce soit. Mais il pesait quand même un petit peu dans le game. Et donc les pirates vont arrêter son bateau, vont arrêter du coup César, ses compagnons, ses esclaves. Enfin, parce qu'il était pas tout seul sur un canoë, quoi, voilà. Et ils vont voir ce type jeune, propre, avec des bouquins, du papyrus, hyper bien habillé. Ils se disent, il y a un business à se faire. Donc, ils vont demander une rançon énormissime, mais vraiment très, très grosse.
Il aurait dû faire comme la princesse Amidala et se cacher parmi ses...
Oui, ça, il aurait pu. César, quand il entend la rançon qu'ils vont demander, il leur rit au nez, mais vraiment, et il dit, mais vous êtes vraiment des gros baltringues parce que je vaux bien plus.
C'est ça. Mais quel gros naze.
Si vous me libérez, je vous offre le double. Les pirates, lui, rient au nez.
Tout le monde riait plutôt bien.
Et César, du coup, bah, qui s'est fait arrêter avec certains de ses esclaves, va envoyer ses esclaves voir notamment tous les gouverneurs qui étaient sur les côtes aux alentours de la Turquie, donc des gouverneurs de l'Empire romain, pour leur demander de payer la rançon. Parce que César s'est dit, en fait, c'est leurs eaux qui sont mal surveillées, il y a des pirates, c'est vers chez eux que je me suis enlevée, c'est à eux de payer ma rançon. Donc,
c'est bizarre parce qu'on dit, tiens, t'as le mec qui te demande de la thune qui est enfermé, reste en prison, je vais pas te payer en fait.
Raisons diplomatiques peut-être.
Oui, tout simplement. Et puis la solidarité entre Romains, la conception de l'honneur à cette époque-là, donc du coup, tu payes. Donc ces esclaves, ils vont mettre peut-être un petit mois quand même à rassembler l'argent. Donc Jules César, il reste prisonnier. Et puis apparemment, il a eu des gros coups de colère contre les pirates en leur disant, et puis, pirates, ils se fendaient la gueule, ils étaient là. C'est sûr que toi, avec ta toche dorée et tes tongs, tu vas nous faire un truc, on y croit vachement. Toujours est-il que lorsque la rançon arrive, eh bien, César est libéré. Il rassemble une petite flotte, il les retrouve et il les fait crucifier et égorger. Je ne sais pas dans quel ordre, mais tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, César, il est comme ça. C'est le mec, il déconne pas, quoi. C'est œil pour œil, dent pour dent.
Ils sont tous cons.
Il a récupéré sa rançon.
Oh bah, y a moyen, à mon avis, il s'est servi. Donc voilà, une petite histoire de pirate de l'Antiquité. Bah, les mecs, ils n'ont pas eu de chance, quoi. Ils sont tombés sur Jules César. Enfin, tout le monde sait que Jules César, il a un poil sous polet, le mec. Donc,
ce truc de la rançon, ça me rappelle le... On a enlevé le cercueil de Charlie Chaplin. Oui. Ils ont demandé une rançon.
Oui. Hallucinante.
Ridicule. Par rapport, pareil, à ce que vaut Charlie Chaplin.
Et le pire,
Chaplin,
c'est que la famille n'a pas voulu payer. Mais la famille se sont trouvés en merde. Mais oui. Et ils ont abandonné le cercueil de Chaplin dans un champ de blé, du coup.
Non. Alors, ils l'ont planqué.
C'était pas ça ?
Ils l'ont planqué, mais en fait, la famille a fini par... Enfin, la police a dit à la monter un coup avec la famille en disant « Faites semblant d'accepter, donnez-leur un rendez-vous téléphonique pour fixer le rendez-vous physique. » Et donc, ils ont donné rendez-vous dans une cabine c'était à Genève, je pense. Et donc, toutes les cabines de la ville étaient surveillées et ils ont chopé les mecs, tu vois. Mais après, ils n'arrivaient pas à retrouver où ils avaient
enlevé le cercueil. Je crois que c'est un paysan qui l'a retrouvé dans son champ de blé.
Apparemment, ils ont dû aller le chercher avec des détecteurs de métaux parce que les deux guignols, mais c'était vraiment des guignols qui... Enfin bon, bref, peu importe.
C'est vrai qu'elle est hallucinante, cette
histoire. Mais genre, ouais, pareil, genre, on veut 1000 euros. C'était pas ça, mais tu vois, genre, un montant dérisoire.
Et deux malabars. Des sandwichs. Donc voilà. Revenons du coup à nos pirates. Donc un pirate, qu'est-ce qu'il fait ? Comme je vous l'ai dit, il vole des marchandises. Donc ça peut être directement de l'or, de l'argent, des matières précieuses, mais également de l'alimentation, parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc voilà, on va des voler le poulet, etc. Mais il peut aussi voler effectivement le navire pour l'utiliser s'il est mieux que le sien, ou le revendre, et l'équipage.
Et est-ce que le pirate, c'est le capitaine du bateau ? Là, pirate,
non, là, quand tout... je dis le pirate, c'est le pirate avec un grand P. Voilà. Mais effectivement, tout l'équipage d'un vaisseau de piraterie est pirate. Voilà. Donc, le but en fait du pirate, c'est clairement de se faire de la thunasse. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas vraiment de morale.
C'est une façon de subvenir à ses besoins comme une autre.
Oui, exactement. Final, Et les pirates, quand c'est un petit peu la Hesse et qu'il n'y a pas beaucoup de monde en mer, se font parfois des petites villes côtières.
Un peu plus comme des saccageurs.
Voilà, c'est vraiment des petits villages côtiers, ils savent où il n'y a pas beaucoup de police, pas beaucoup surveillés. Tac, on va voler les poules, violer deux femmes et on retourne à bord. Voilà. Donc, dans un premier temps, la piraterie, elle est vraiment essentiellement en Méditerranée. Alors, il va de soi qu'il existe aussi probablement dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge de la piraterie en mer de Chine. Voilà.
C'est ce qu'on a peu décrit dessus.
Mais ce qu'on a peu décrit, c'est que moi aussi j'ai trouvé moins d'infos à ce sujet. Et puis parce qu'en règle générale, mes sujets, je les tourne aussi sur le monde occidental et non pas sur le monde oriental. Voilà.
Ton racisme latent.
Tout à fait, absolument. Cette piraterie, elle va donc perdurer tout au long du Moyen-Âge pour atteindre son âge d'or. L'âge d'or, c'est en gros la période des films Pirates des Caraïbes, la période du jeu actuel en vogue Sea of Thieves, la période à laquelle a vécu Barbe Noire, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle.
Putain, c'est tard.
Et pour vous faire une idée, en gros, si vraiment vous vous dites, je sais pas quand c'est en gros l'époque Château de Versailles.
Tiens, filer les dates, quoi.
Oui, mais tu sais, moi je connais plein de gens qui me disent, quand tu me dis Moyen-Âge, ça ne m'évoque rien, je sais pas quand c'est, je sais pas à quoi comparer. Oui, bravo.
Ça vaut 4 ans.
Mais enfin, tu sais, il y a plein de gens qui ont du mal à faire des liens entre un personnage historique, un événement historique.
Ouais, je suis pareil.
C'est vrai que l'image que tu te fais du pirate avec le type de costume qu'il a, tu sais, son tricorne et tout.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est plutôt cette période-là. Ouais.
Mais exactement. C'est vraiment l'âge d'or, la période des pirates qui nous fait fantasmer, etc. Et voilà, pour vous faire une idée, vraiment, nous à cette époque-là, en France, c'est Château de Versailles. On bouffe des macarons dans la soie. Enfin, voilà, le top moment, quoi. on est vraiment à cette époque-là dans la piraterie de notre imaginaire collectif, le cache-œil, le Jolly Roger, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
C'est le drapeau.
C'est le pavillon, exactement. Ah, c'est le fameux pavillon qu'on représente noir avec la tête de mort. Je vais vous en parler. Le Jolly Roger.
Tête de mort, film croisé. Il n'y a pas une origine des Templiers ?
Alors moi, écoute, j'ai pas trouvé de choses reliées aux Templiers, non. Là, ça ne me dit rien comme ça.
Il me semble avoir vu une histoire avec les Templiers, et bref, c'est un truc beaucoup plus compliqué, mais on en parlera une fois.
Mais de toute façon, je vais en revenir, et voilà, c'est l'époque du tricorne, enfin bref, c'est vraiment l'époque où tout y est. Donc en fait, pourquoi c'est l'âge d'or vraiment des pirates ? Parce que c'est notamment
l'âge d'or des autres, et donc il y a beaucoup de richesses qui...
Bah, en fait, en quelque sorte, c'est l'âge d'or des pirates et essentiellement dans les Caraïbes. Là, c'est le feu de Dieu dans les Caraïbes. Ouais. Le film porte bien son nom.
Faire un film dessus.
Voilà, exactement. On va en faire un film. Et la côte atlantique nord également, beaucoup. Parce qu'en fait, on va piller tous les bateaux qui, parce qu'on est au top du commerce triangulaire. Mmh. Et en fait, on pille tous les bateaux du commerce triangulaire. C'est le but. Quoi. Exactement. Mmh. C'est donc le fameux commerce triangulaire pour ceux qui auraient oublié leur cours de cinquième.
De géométrie.
De quatrième, je sais plus. Je crois que c'est quatrième. Et bah, vous avez.
Camille dit commerce triangulaire et puis elle fait un rectangle.
Mais non. Non. Si. Ah si. C'est rectangle. J'ai fait un bac L. Donc, en gros, vous avez l'Europe. Les bateaux partent d'Europe avec des cargaisons européennes, donc des objets manufacturés, des chevaux, enfin voilà, jusqu'en Afrique. Avec ces bateaux en Afrique, on met des émissaires qui vont aller rencontrer des rois. Très souvent, ça se passe comme ça, de différentes tribus et communautés africaines. On va leur acheter des esclaves qu'ils ont récupérés lors de guerres contre d'autres tribus, ou on va capturer des esclaves nous-mêmes. Ça s'est fait aussi.
Grande fierté de l'Occident.
Ah, mais totalement, c'est vraiment. Et ensuite, tac, ce bateau qu'on a vidé de marchandises et rempli d'une marchandise d'humains cette fois-ci, on l'envoie dans le nouveau continent pour faire des cultures et on échange tous ces esclaves contre de la canne à sucre, de l'or, plus tard ça pourrait être du coton, ça a été du café, de l'argent, des pierres précieuses, enfin bref, tout un tas de choses. Et on renvoie ce dernier bateau, donc le dernier côté du triangle, à nouveau en Europe. Et c'est ce trajet-là qui vraiment fait kiffer les pirates. De... Le côté Caraïbes, Europe. Parce que c'est là que t'es blindé d'or.
Et puis je pense que l'or, c'est plus facile à stocker que les esclaves.
Aussi. Oui, ouais, clairement. C'est... Oui, c'est, voilà, c'est vraiment... on est à fond. donc, en gros, il y a de quoi se faire...
De la maille.
De la maille, tout à fait. Alors, attention... Parce que les romans d'aventure du 19e siècle et puis les films justement plus récents, genre Pirates des Caraïbes, ils ont rendu les pirates vachement cool, vachement sexy. Enfin, c'est voilà, il y a des déguisements pour les petits garçons aujourd'hui de pirates, etc. Il y a un petit côté ouais, c'est l'aventurier des mers et tout.
Mais c'est sûr, Johnny Depp, c'est cool.
En fait, je pense que c'était clairement une grosse vie de merde d'être un pirate. C'était pas essentiellement des enfants de cœur.
Une chance sur deux d'avoir le scorbut, t'étais tout dégueulasse.
Ouais, c'est clairement, enfin voilà, c'est pas ouf. Alors, les bateaux pirates, ils sont petits.
Okay.
C'est pas des gros trucs. Okay. Et non, parce que le but du jeu, c'est d'être hyper rapide et d'être beaucoup plus rapide.
Tu chasses un bateau et après, tu peux monter sur l'autre bateau, s'il faut.
Oui, alors on essaye d'éviter
les abordages
parce que en faisant ça, ça sous-entend qu'avant, il a fallu courser le bateau, il a fallu le harponner, tirer des coups de canon, etc. Donc, t'abîmes le bateau que t'aimerais bien voler. Et tu peux abîmer le tien. Non, non, même pas tant que ça. Donc, en gros, l'idée, c'est d'être rapide, c'est de s'approcher d'un gros navire, éventuellement de mettre effectivement un ou deux coups de canon dans le navire pour faire un ou deux trous, pour occuper tous les marins qui sont dessus. Il faut aller dans la cale très, très vite, voir les dégâts, etc. Et pendant que c'est la grosse panique, là, effectivement, on peut éventuellement sauter à l'abordage et essayer de tout récupérer. Mais dans les faits, très souvent, tu vois qu'il y a un navire pirate qui te court après, tu te rends. C'est-à-dire que tu jettes l'ancre et tu leur dis bonjour, on vous rejoint pour le thé.
Et puis, comme tu disais, basiquement, si c'est un vaisseau qui est plus petit, moins chargé et tout, il va être plus rapide. Donc, une fois que tu as 12 000 km à faire sur la mer, tu ne vas pas le semer dans un virage.
Puis franchement, j'ai envie de te dire, marin, c'est ton métier, c'est pas une vocation incroyable non plus. Donc, toi, tu t'en fous. L'or que tu es en train de transférer, c'est pas ton or. Ouais. Donc je pense qu'au bout d'un moment, tu lâches un peu l'affaire. Il y en a aussi qui ont essayé de se battre, etc. Mais dans la grande majorité des cas, tu dis juste un « Eh merde !» C'est comme quand tu vois la police avec les gyros derrière toi, tu fais « Ah merde !» et tu te fous sur le bas-côté et t'attends qu'ils arrivent. Quoi.
C'est un peu comme les pirates d'Astérix quand ils voient les Gaulois.
Oui, exactement.
Bon.
Les gogo.
Donc, une fois que les pirates sont montés sur le bateau, t'as même parfois des membres, alors ça se fait pas tout le temps, mais t'as des membres de l'équipage des marins qui vont proposer aux pirates de rejoindre leur équipe, parce que tu te fais un peu plus de thunes souvent quand t'es pirate. La vie d'un marin, elle a rien de sexy non plus, l'espérance de vie, elle est pas immense, tu manges mal, t'as plein de maladies, tu te fais attaquer par les pirates, t'es sous-payé, t'as pas de gonzesse, c'est pas ouf.
Et puis les pirates, ils leur disent, ça sera tout pareil, mais vous pourrez faire ce que vous voulez.
Exactement. Voilà. Donc voilà. Alors tout à l'heure, on a mentionné très rapidement le cache-œil et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment. Enfin, on imagine toujours le pirate avec son cache-œil et son perroquet sur l'épaule. Alors j'ai rien trouvé sur le perroquet sur l'épaule. Ça, je pense que ça vient vraiment.
J'imagine bêtement des Caraïbes en se disant, tiens, c'est un oiseau.
Peter Pan peut-être.
Non, mais je pense effectivement que
il a pas
de perroquet. Non.
Et puis c'est pas un pirate.
Je pense que ça vient.
Il y a peut-être un personnage qui a ancré ça une fois.
À mon avis, il doit y avoir un roman d'aventurier du 19e siècle où il y a un pirate avec un perroquet. Yes. Et puis tout simplement, je pense que oui, les pirates en pillant des navires ont eu accès à des animaux exotiques et que certains capitaines ou membres d'équipage ont dû se garder des animaux pour le kiff.
Celui qui gardait un serpent sur les épaules, je pense qu'il est pareil, il a pas duré longtemps. Donc,
mon ami, il valait mieux garder le perroquet. Donc le cache-œil, c'est pas un fantasme. Alors parfois, tu pouvais effectivement avoir un cache-œil parce que t'es pris un petit pic d'épée dans l'œil et voilà.
Je trouve que c'est super malin le cache-œil. Je vais
t'expliquer. En fait, c'est une utilité excessivement maligne. C'est-à-dire que dans ta journée de pirate du matin au soir, tu passes ta journée à être sur le pont où y a quand même une luminosité de ouf. T'as rarement des parasols sur un bateau. Hein, et dans la cale pour aller chercher des trucs, etc. Donc jour, nuit, comme Christian Clavier dans Les Visiteurs. Et donc du coup, tu descends dans la cale et tes yeux, ils sont plus du tout habitués. Donc tac, tu soulèves ton petit cache-œil de ton œil qui est tout le temps à l'obscurité et tu vois hyper bien. Mais... comme quand les avions décollent et puis qu'ils mettent l'obscurité pour si jamais on a un souci, qu'on soit déjà habitué à l'obscurité.
Mais en fait, aujourd'hui, ils auraient juste mis des lunettes.
Quoi. Des lunettes de soleil, oui.
Exactement.
Ouais.
Non, tu sais, les lunettes à verre teinté, enfin, tu sais, qui changent.
Qui changent.
Ouais, exactement.
Adaptatives.
Et en fait, c'est hyper utile parce qu'en cas d'attaque, notamment, où tu dois aller chercher des canons dans la cale, monter sur le pont, charger les canons, etc., en fait, tu peux faire les allers-retours où tu as juste
à quand même un œil qui part en cacahuète.
Ouais, mais je pense que tu
t'es pas, ébloui.
Tu vas pouvoir changer de côté de temps en temps.
C'est ça, t'es pas ébloui en fait. Ouais.
Après, c'est vrai qu'un œil bandé, vous savez, quand on a un œil, on voit plus les profondeurs.
Ouais, mais tu t'habitues, à mon avis. Ouais. Je pense que tu t'habitues hyper vite, exactement.
Mais j'avoue, si t'es vendeur de lunettes de soleil pour pirate, tu fais de la fortune, quoi. T'es obligé de faire des lunettes avec un seul verre ou un seul bordel.
Alors, donc voilà, j'ai parlé du cache-œil. Je vais également vous parler un petit peu du joli Roger, donc que j'ai mentionné.
Le drapeau.
Donc voilà, le fameux. Donc on dit pas drapeau quand il s'agit de bateaux, on dit des pavillons, exactement. Le joli Roger, il apparaît à cet âge d'or. Les premières mentions qu'on a dans des textes du joli Roger, c'est vers 1700. Et donc c'est effectivement un drapeau qui peut être noir ou rouge. Nous, on le représente en noir, mais il peut être rouge également. Et il n'a pas la même signification, je vais vous expliquer, selon sa couleur, qu'aujourd'hui, quand un enfant le dessine, on représente une tête de mort avec deux tibias, par exemple, derrière, ce genre de choses.
Un enfant dessine ça, moi, je vais me poser des questions.
Mais si un enfant dessine... Pirates, tu dessines un bateau pirate, voilà. T'as pas eu d'enfance ou quoi? Et en fait, c'est le thème du Memento Mori. Le Memento Mori, c'est un truc que j'avais beaucoup étudié en histoire de l'art, qui apparaît dès l'Antiquité. En fait, c'est un thème qu'on reprend très souvent quand l'humanité traverse une période pas hyper cool. Et ça veut dire rappelle-toi que tu es mortel. Voilà, donc par exemple pendant la peste noire de 1348 ou pendant la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire à l'époque où vraiment ça meurt à la pelle, quoi. C'est vraiment la mort fait partie du quotidien. Tu mettais ça en déco sur ta tombe ou sur ta cheminée ou tu te faisais bijou. On a retrouvé beaucoup de bijoux de femmes du 15e siècle avec des mementos mori, des natures mortes, exactement. Enfin, c'est toujours te rappeler que la mort, elle peut frapper tout le temps, n'importe quand, etc. Et bah là, t'es dans le même truc, en fait. Les pirates, en fait, côtoient la mort. Et donc, il y a un petit côté coucou, c'est la mort qui arrive. Rappelle-toi que tu es mortel. Enfin, voilà.
Là, je me dis à la fois pour leurs adversaires comme
pour
eux.
Et pour eux, exactement. Ouais. Voilà, c'est hyper symbolique. Et d'ailleurs, quand t'as parlé dans un épisode assez récent de la danse macabre, la danse macabre, c'est un thème, en fait, artistique que tu retrouvais à l'entrée des cimetières. Et ça fait clairement partie des Memento Mori, en fait, les danses macabres. Les squelettes. Okay. Voilà, t'es dans le même thème.
Ok.
Donc on a ces Memento Mori sur ces drapeaux noirs ou rouges. Quand on hisse le pavillon noir, c'est ce qu'on fait en premier. On prévient la cible. On l'invite à se rendre. Ça veut dire coucou.
Calmez-vous.
On arrive. On t'invite à te garer sur le bas-côté et à nous accueillir avec un verre de cidre.
Le bas-côté pouvant être excessivement loin suivant où tu te trouves.
Voilà. Si la cible, elle se dit YOLO.
Ouais, pas chaud, on a un truc sur le feu.
Voilà, on est attendu pour dîner, il y a couvre-feu à 18h, il faut qu'on rentre.
J'ai ma carte vitale qui est perdue quelque part, j'ai pas envie de la perdre, je me casse.
Voilà, exactement. Et bien là, soit le pavillon pirate se dit chaud, non-timorcité, donc on va aller ailleurs, etc. Soit le pavillon se dit on y va.
Rouge, c'est
enfin voilà, on va changer. Soit le vaisseau se dit on y va, et donc là, ils vont mettre ils vont hisser le pavillon rouge, celui qui veut dire pas de quartier, c'est-à-dire non seulement on va vous choper les gars, mais en plus on ne va pas vous épargner. Mmh. Exactement.
Mais alors c'est pareil avec le tibia et le crâne.
Oui. Alors en fait, tu as des vaisseaux pirates sur lesquels ils vont juste avoir des drapeaux unis, c'est quand ils n'ont pas envie de se faire suer ou quoi. Mmh. Et en fait, sinon, tous les autres motifs sont personnalisés par les capitaine et l'équipage. Donc c'est en fait, Barbe Noire, il avait son propre Jolly Roger, par exemple. Je crois que ça représente un pirate avec un diable à côté, rouge. Alors, vous pouvez voir sur Internet. Vous pouvez en retrouver plein parce qu'on en connaît plein, parce qu'il est dessiné sur leur courrier. Enfin, non, mais si, c'est vrai.
Le papier en tête de pirate.
C'est, ouais, c'est ça.
Signé Barbe Noire.
Barbe Noire à gmail.com, ouais. Juste en dessous. XO, XO.
Finalement, Diddle n'a rien inventé.
Et il y en a plein. Il y en a un où c'est un pirate qui trinque avec un squelette qui représente la mort. Donc, ils ont chacun une chope de bière et ils trinquent. Enfin, il y en a plein, vraiment. Bah,
ce qui veut dire, on va mourir, mais qu'est-ce qu'on s'est
fait ? Non, mais moi, la mort, je la regarde dans
tapez
les yeux.
À l'occasion, vous tapez Jolly Roger sur Internet et vous allez en trouver, mais plein qui sont référencés. Et il y en a vraiment des rigolos, il y en a avec des cœurs, il y en a avec des gouttes de sang, il y en a avec des inscriptions, des phrases carrément. Mais tu retrouves toujours au moins un squelette, très souvent.
Okay.
C'est voilà, le thème récurrent, parfois juste une tête de mort ou parfois un squelette en entier.
Et Jolly Roger, genre. Pourquoi ?
Ah, joli alors, Roger. On ne sait pas trop. Ça peut venir du roi Roger de Sicile qui se faisait surnommer Joli Roger, mais on ne comprendrait pas trop pourquoi ça viendrait de lui. Ça peut, et c'était bien avant, c'était au Moyen-Âge.
C'est un gros doigt mouillé.
Ça peut. Ouais, non, mais totalement.
C'est joli, on dirait Roger.
Ça, et ça peut venir, c'est ce qu'on pense peut-être le plus, ça pourrait venir du français joli rouge, parce que je crois que c'est les boucaniers. Français, je vous expliquerai les différences entre pirates, corsaires, boucaniers, etc. Utilisaient un drapeau rouge quand ils voulaient dire pas de quartier. Je crois qu'ils ont été les premiers, les boucaniers français, à faire ça. Et donc, du coup, ils appelaient ça hisser le joli rouge. Et les Anglais sont passés par là et ils ont essayé de répéter le joli rouge. Et on pense que ça vient plutôt de là et que c'est devenu le joli Roger. En fait, on n'en sait rien. Clairement, quand tu regardes les pistes, on fait pipi dans un violon, on ne sait pas vraiment.
D'accord.
Voilà. Donc voilà pour le Jolly Roger, et vraiment je vous invite à aller voir, il y en a plein, et je trouve ça assez amusant parce qu'ils se sont fait plaisir quoi, les gars, c'est assez marrant. Alors, on a aussi dans l'imaginaire collectif le code des pirates. Donc moi j'ai voulu savoir s'il y a vraiment un code des pirates qui existe, parce que dans Pirates des Caraïbes, ils te sortent un
parler.
Truc un peu, oui exactement, le truc à la con du pourparler. Et je me suis dit, il y avait vraiment cette connerie-là. Alors non, en fait, pas du tout. Il y a bien un truc qui a existé, mais d'une façon vraiment différente et qui s'appelle pas le code des pirates. Le code des pirates, c'est un truc un peu plus moderne. Ça s'appelle la chasse-partie. Et donc la chasse-partie, c'est à l'origine une convention qui est employée par les corsaires, puis par les pirates. On reviendra vraiment sur la différence pirate-corsaire. Pour les corsaires, elle est définie quelques jours avant le départ du navire corsaire. Et cette chasse-partie, elle va établir en quelque sorte toute la réglementation du voyage. Voilà, pour l'équipage, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire.
C'était des mercenaires, je crois.
Comment ?
C'était pas des mercenaires.
C'était totalement des mercenaires, oui. Voilà. Pour les pirates, il n'y a pas de chasse-partie universelle, en fait. C'est-à-dire, chaque chasse-partie varie selon la zone géographique, selon le bateau, selon la spécificité de l'équipage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un code des pirates par navire.
Ouais, en gros, du style, vous attaquez pas les enfants, vous
oui, voilà, mais c'est, en gros, c'est l'équipage qui se met d'accord sur ses règles en interne. C'est-à-dire que si tu montes sur un bateau de pirates dans les faits et que tu dis pour parler, le mec peut trironner, quoi, totalement. Il n'y a aucun code.
Ok, on règle ça à la pétanque.
Voilà, tout à fait. Où on peut accueillir les nouveaux détenus avec des tagadas. Enfin, c'est vraiment, tout est possible. Ce qui fait qu'on a une tonnes de chasse-parties. Il y en a plein qu'on a retrouvés et il y en existait encore probablement, mais beaucoup plus que ça, parce que, comme je vous l'ai dit, ça varie selon aussi la spécificité de l'équipage. On essaie de l'adapter. Si tu avais un pirate qui était cul de jatte, et ben on avait une petite réglementation exprès pour lui, tu vois, c'est assez amusant.
C'est ça l'inclusivité, on aime bien.
Et il y en a une qui est très connue, qui est celle d'un pirate qui date de l'âge d'or, donc du début du XVIIIe siècle, pour ses hauts faits, qui s'appelle Bartholomew Roberts. Et il a écrit sa chasse-partie en tant que capitaine, donc je vais vous la lire si ça vous intéresse.
Ah, bien sûr.
Allez. Pour que vous fassiez une idée. Donc, article 1, chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la disette n'oblige le public d'en disposer entrement. La décision étant prise par vote. Donc du coup, tu te dis, c'est quand même organisé leur truc, tu vois.
Ouais,
c'est... Voilà. Donc il a un deuxième article sur le fait que le pertage, ça doit se faire tour à tour en fait. Chaque pirate vient, prend un objet et ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je vous le dis pas parce qu'il est assez long quand même. 3, il est interdit de jouer de l'argent au dé ou aux cartes. 4, les lumières et les chandelles doivent être éteintes à 8h du soir.
Couvre-feu.
Voilà, ceux qui veulent boire après 7h doivent rester sur le pont sans lumière. C'est amusant quand même. Et non, c'est pour pas être repéré la nuit, hein, tout simplement. 5, les hommes doivent avoir leur fusil, leur sable et leur pistolet toujours propres et en état de marche. Ça fait sens.
Leur sabre, je pense.
Oui, ce que j'ai dit.
Pardon, j'ai cru entendre sable, je me suis dit.
Ah, pardon, leur sabre.
Mais je me suis dit, on a tous compris.
Pardon, tu vois. Oui, leur sabre.
J'imaginais le truc, genre à la saute, ils lancent des petites poignées de sable. Sabre.
Dans les yeux, dans les yeux.
Non, on ne me dit pas le sable. Pardon, vas-y.
6, la présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort.
Attends, juste si c'est écrit, c'est que c'est arrivé.
Oui, c'est sûr.
La faire naviguer déguisée. Tu...
Voilà. Et pareil, là, j'ai pas pris le temps parce que j'ai pas franchement le temps de vous en parler, mais il y a eu des femmes pirates extrêmement puissantes qui ont existé. Enfin, c'est bien entendu, il y en a eu, il y en a qui ont été capitaines, qui ont été extrêmement craintes. Par leurs semblables et essentiellement à cet âge d'or des pirates justement voilà
cool
mais vous trouverez
un
plein de
produits
oui c'est vrai oui bah c'est pas faux voilà quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort ou abandonné sur une île déserte
pirates des Caraïbes
voilà. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire, les querelles seront vidées à terre de la manière qui suit à l'épée ou au pistolet.
Okay.
Les hommes étant préalablement passés dos à dos feront volte-face au commandement du quartier maître et feront feu aussitôt. En gros, on est sur un duel. Ouais. Voilà, tous les conflits se règlent à duel et sur terre ferme. Oui, ce serait con d'endommager le bateau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit article qui pourrait vous intéresser Le capitaine et le quartier maître, donc le quartier maître c'est son second, recevront chacun 2 parts de butin. Okay. Le canonnier, le maître d'équipage, 1 part et demie, et les autres officiers, 1 part et 1/4, les flibustiers, 1 part chacun.
Okay.
Et enfin, les musiciens auront le droit de se reposer le jour du Shabbat.
Non.
Sérieux ?
Oui.
Génial.
Les autres jours de repos ne leur seront accordés que par faveur.
Mais genre, c'est vraiment écrit Shabbat ?
Oui, mais pas dans... À mon avis, c'est pas dans le...
judaïsme.
Voilà, c'est pas lié au judaïsme, c'est un terme commun pour repos.
D'accord, ok.
Voilà, à mon avis. Un terme biblique de repos, mais qui est pas rattaché
au
judaïsme.
J'ai envie de dire, c'est mon jour off, c'est mon Shabbat, quoi.
Exactement. Okay. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est quand même réglementé. Et là, c'est un exemple. Mais en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et il y a beaucoup d'articles en général qui décrivent vraiment la façon dont on se partage le butin. On peut même, par exemple, filer des primes à travers ces codes pour si tu perds une main dans la bataille, ce genre de choses. Tu as des petites primes de compensation, etc., qui sont définies par ces codes de pirates. L'organisation sociale à bord du navire, elle est quand même plutôt bien rodée. On a le capitaine du navire qui très très souvent est élu. Alors ça n'empêche pas les mutineries, les rébellions, etc. Mais il est élu et c'est pas le plus riche ou le plus aristocrate, entre guillemets, ou ce genre de choses. Souvent c'est le mec sur qui on a le plus de confiance. Le
ça
bon compagnon d'armes.
On a rassemblé un groupe avant et ensuite on a élu quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui s'est dit je vais me lancer dans la piraterie, je vais rassembler autour de moi un équipage et nanana.
Bah après le mec peut faire ça mais il est pas forcément sûr d'être élu.
Potentiellement un capitaine qui peut décéder.
Oui voilà ou s'il y a une mutinerie on peut aussi décider de délire le nouveau capitaine à l'issue de la mutinerie quand on s'est débarrassé de celui qu'on aimait pas. Voilà. Et il a à ses côtés au moins un second qui va lui gérer vraiment tout l'équipage, les petits soucis de ah, il a mangé ma tartine de confiture, enfin voilà ce genre de truc, et qui fait régner l'ordre, voilà.
Et on sait qu'il y a confiture à bord, c'est important.
Ah bah oui, peut-être. Et enfin, un petit détail avant de vous parler des corsaires. Qu'est-ce qui arrive à un pirate qui se fait arrêter par...
Il est mis au fer.
Non, il est très souvent exécuté après un procès éclair. Hein. Les pirates, on les pend, on simplement. A horreur de ça.
Quelle est la jambe de bois?
Oh bah la jambe de bois, elle est tout à fait probable, le crochet aussi. Quoique, bien souvent, un pirate était quand même plutôt un bon nageur, donc à mon avis, il faut bien ramer.
Putain, avec la jambe de bois.
En fait, c'est marrant nager avec ta jambe de bois, soit devenu un symbole de pirate, parce que ça devait être juste pour n'importe qui, à cette époque-là, qui avait besoin d'un membre.
Mais il y a le côté aussi, imaginaire collectif, je pense, ça fait un petit peu peur, ça rajoute un côté héroïque, aventurier, Donc du coup, les pirates, voilà, vraiment pour résumer, ils bossent, le pirate il bosse pour son compte, il partage son butin entre l'équipage et il travaille, si je puis dire, toute l'année. Mmh. Il n'a pas de période. Les corsaires, c'est totalement différent. Ils apparaissent à la toute fin du Moyen-Âge, déjà, donc beaucoup plus tard. Et en fait, un corsaire, il sert les intérêts de son pays. Oui, il travaille pour un souverain.
Il est engagé.
Exactement. Pour un souverain ou pour un gouvernement, et essentiellement en temps de guerre. On emploie rarement des corsaires en temps de paix. Et on utilise des corsaires souvent quand on a une flotte nationale qui n'est pas ouf. Ça permet un petit peu de reprendre du pouvoir sur la mer.
C'est des mercenaires.
C'est des mercenaires. Et...
Voilà, exactement.
Mais ils peuvent être d'une. Tu peux embaucher des mercenaires, des corsaires d'une autre nationalité.
Mais c'est pas vraiment des mercenaires qui sont là pour buter, etc. Ils sont pas là pour la guerre. Hein. Ils sont vraiment là pour apporter de la thune. Hein.
Ah d'accord.
Voilà. Ouais. Non, c'est pas des ninjas qui vont te buter les autres bateaux.
Non, mais en gros, un mercenaire, c'est un électron libre que n'importe qui embauche pour telle tâche. En gros, c'est ça quoi.
Okay. Oui. Et donc ça peut être soit des citoyens, des gens de ta nationalité qui sont reconnus comme d'excellents capitaines, etc. Soit des pirates qui vont proposer des super pirates qui vont proposer leurs services.
C'est des professionnels en fait. Voilà. C'est des gens qui vivent de leur métier, qui sont embauchés pour le faire.
Ils peuvent être fiers d'eux.
Exactement.
Et qui en ont marre de se faire pendre par ton gouvernement.
Donc ils ont une mission qui, en général, dure, d'après les contrats qu'on a, quelques mois, rarement un an, souvent c'est plusieurs mois, qui est définie vraiment en avance. Et également, on va définir les pays dont il faut qu'ils traquent les navires marchands. Voilà, c'est-à-dire le corsaire français, il ne va pas s'attaquer à tous les navires. Par exemple, le gouvernement français va lui dire « si tu pouvais aller piller les navires espagnols, ce serait bien ». Voilà, ce genre de choses. Et en France, en tout cas au XVIIIe siècle, on a ce qu'on appelle le conseil des prises. C'est-à-dire que quand le corsaire ramène un navire dans un port français qu'il a saisi, eh bien le conseil des prises va envoyer un mec qui va dresser tout un inventaire de ce qui a été pris, qui va du coup définir si la prise a été bonne ou pas, et qui va s'occuper du, de la vente et du coup de la répartition des gains. Le roi et l'État prennent sa part. Donc le roi, il a sa part propre. L'État, il prend une autre part... qui va très souvent partir pour l'armée. Et puis pour toutes les œuvres caritatives, les veuves de marins, les veuves de soldats, ce genre de trucs. Et l'équipage et le corsaire se partagent, enfin le capitaine corsaire se partage les 70% qui restent.
Mais du coup, en termes de diplomatie, en fait, en gros, c'est pas l'armée qui t'attaque. C'est pas le pays. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire ?
Ils sont mandatés par
le pays.
Genre,
si tu te fais. Si tu te fais, bah justement.
Ouais, c'est pas une attaque directe, c'est pas une déclaration de guerre.
Ouais, si voilà. C'est pas l'armée qui t'a attaqué, c'est pas ça. La France avec son corsaire. Enfin.
Mais par contre, si admettons un navire corsaire vient t'attaquer et que t'arrives à les attraper, eux, ils seront pas jugés comme des pirates, ils vont être considérés comme des prisonniers de guerre. Donc tu vas les échanger, les rendre à l'État contre une rançon ou contre un échange de prisonniers, tout simplement. Voilà, ils sont mieux considérés en fait par ils sont pas considérés comme des truands ou des barbares les corsaires. C'est des salariés de l'État qui font.
C'est des fonctionnaires quoi.
Exactement. Wow. Parmi les corsaires célèbres, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le fameux Barberousse, Barbarossa, qui est pas du tout un pirate, mais qui est un corsaire et qui est un corsaire pour l'Empire ottoman. Au XVe siècle, je crois, à peu près à l'époque de Soliman le Magnifique, il me semble. Voilà. Et il y a aussi Sir Francis Drake, qui est, je pense, un des corsaires les plus connus. Mais
Uncharted, c'est dans le jeu Uncharted. Uncharted, on court après le trésor de Drake.
D'accord. Et je dis bien Sir Francis Drake, parce que Elisabeth Ier était tellement contente de ses services qu'elle l'a anobli, le mec.
La classe.
Et donc lui, durant une grande partie de sa vie, il va être effectivement le capitaine corsaire d'Elisabeth Ier. Il va notamment s'occuper de beaucoup de navires espagnols, mais il va également découvrir beaucoup d'endroits. Là, en début d'année.
Il me semble que c'est lui qui a découvert le Cap Vert, un truc comme ça.
Mais je sais qu'il a découvert plein de passages parce qu'il y a des caps au nord de San Francisco qui portent son nom. Il y a énormément de plages qui portent son nom, etc.
Non, mais il me semble. Son nom, il a vraiment partout. Quelque chose. Et,
il a voyagé partout. Il est allé partout. C'était un homme, quand même, de lettres, etc. Et en parallèle, c'était un corsaire. Enfin, c'est assez. Ouais, son histoire, elle est assez intéressante. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner.
On débrouille. Ce Francis.
Et voilà, Francis Drake, il y a plein de choses à dire sur lui. Et il a été. Alors que c'était un brigand, en fait, hein, quand tu résumes le truc très clairement. Hein. Mais les Anglais étaient excessivement fiers. Et il y a des rues, Sir Francis Drake, ça me fait marrer. Ouais, ça ne viendrait pas à l'idée de mettre une rue Barbe Noire, quoi.
Ouais.
Tu vois et pourtant, voilà, il y a des rues, Sir Francis Drake. Alors tu te dis, mais qui est donc ce politicien anglais? Pas du tout. C'est un mec qui a coulé des navires et qui a pillé des trucs, quoi.
Il y a bien des rues, Serge Dassault.
Ouais, ça c'est bien.
Il y en a pour de vrai.
Oui,
Ok.
Oui, oui. Et l'âge d'or des corsaires est grosso modo le même que celui de l'âge d'or des pirates. Il y a pas mal de corsaires qui ont fini pirates et de pirates qui ont fini corsaires aussi, ça, c'est arrivé, hein, comme je vous l'ai dit.
Il y a un turnover, quoi.
Voilà, exactement. Et au début du 19e siècle, on commence à de moins en moins employer des corsaires, tout simplement bah, parce qu'il y a l'essoufflement du commerce triangulaire, il y a l'essoufflement du commerce maritime, hein, il y a l'arrivée du train, il y a, enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a des navires aussi de plus en plus sécurisés, donc c'est de plus en plus dur en fait, de piller des navires marchands. Ça passe de mode, et puis bah, ensuite, avec nos navires entre guillemets actuels, voilà, ça fait que les corsaires disparaissent. Après la guerre de sécession, les dernières images qu'on a, c'est vraiment la guerre de sécession aux États-Unis. Il va y avoir encore quelques corsaires dans les deux parties, mais pour le long des côtes. Mais sinon, en fait, ça existe quasiment plus.
Par contre, les pirates, ils existent encore.
Oui, ah bah bien sûr, les pirates existent encore, tout à fait.
Corne de Somalie.
Et il y a également, si vous regardez dans les synonymes entre guillemets de pirates, ce qu'on pense être des synonymes un peu comme corsaires, vous avez également les boucaniers. Alors les boucaniers, j'ai pas vraiment le temps de vous en parler, mais c'est des... Très, très rapidement, c'est plus des... oh là là, vous savez, ceux qui chassent les animaux de façon illégale.
Des braconniers.
Voilà, c'est un peu des braconniers, mais des mers, en quelque sorte. Et qui, quand ils voient un bateau qui passe, peuvent de temps en temps s'enjailler, se dire « Ah, pas de quartier,
on va descendre. » On a des harpons pour les baleines et les bateaux.
C'est des mecs qui, de base, vivent essentiellement de braconnage.
D'accord.
Pourtant, les boucaniers. Et vous avez aussi les flibustiers. Donc, eux, ce sont des hommes mi-pirates, mi-corsaires, et qui sont soit anglais et français. C'est vraiment pour un terme, ça concerne que les Anglais et les Français, et qui pillent les navires espagnols qui reviennent d'Amérique du Sud.
C'est si précis.
Ah, mais totalement, les flibustiers, en fait,
seulement
ça a une définition très précise. Voilà, le mardi, entre 8h et
9h, c'est clair.
Comme les horaires d'une fac, en fait, des bureaux d'inscription dans une fac. Quoi. C'est, voilà, c'est aussi, aussi compliqué que ça.
J'imagine au bureau de répartition des... Alors, vous êtes espagnol ? Non. Anglais, d'accord, très bien. Vous êtes embauché par l'État ? Non, ok, vous êtes pirate. Oui, vous êtes flibustier, d'accord.
Et donc, en fait, c'est des genres de pirates qui ont été embauchés, mais un peu au black, par les États français et anglais pour aller piller les navires espagnols au XVIIe et XVIIIe siècle qui revenaient du coup avec de l'or directement d'Amérique du Sud. Tu sens qu'en fait, on a eu le seum de s'être fait prendre tout l'Amérique du Sud par les Espagnols, en gros. Et ils devaient, en théorie, donner une partie de leur butin à l'État, comme les corsaires. Dans la pratique, ils ne le faisaient pas tout le temps. Mais l'État fermait totalement les yeux parce que le but du jeu, c'était juste de faire chier les Espagnols.
Allez.
Voilà, c'était la gratuité totale. C'était juste d'aller pourrir les Espagnols. Donc, vous voyez, c'est un statut vraiment particulier encore, les flibustiers. Voilà.
Est-ce que tu as une idée de la fréquence à laquelle... Parce que là, du coup, on dirait qu'il y a un monde fou en mer.
Genre, mais
quel est le
mais
risque dans cette grande période d'âge d'or
de se faire attaquer par des pirates
genre vraiment est-ce que tu as une chance sur 3 ou non en fait c'est une sur 20 mais...
c'est aucune idée après je pense que comme enfin c'était pas non plus si courant que ça
Bon, le commerce triangulaire, c'est quand même bien porté, on peut dire.
Oui, ah bah, totalement. Voilà. Mais en fait, non, on ne sait pas. Juste, le seul chiffre que je peux te donner, c'est que pour te faire une idée, un marin qui part d'Europe pour une tournée de commerce triangulaire, il a 20% de chance de revenir mort. Entre les attaques, la maladie, etc. Avec tout ce qui est possible.
Mais c'est vrai que ça ne nous dit pas à quel point...
Donc voilà, ça ne nous dit pas en fait de quoi sont morts ces marins précisément. Enfin, il faudrait des statistiques un petit peu plus précises. Mais du coup, c'est pas non plus si courant que ça, parce que c'est pas 80% de l'équipage qui meurt non plus, tu vois. C'est 20% de chance, mais après, je pense que c'est hyper aléatoire aussi. À mon avis, il y a des...
Il y a quand même une chance sur 5 de crever. C'est pas mal.
Ouais, mais puis à mon avis, il y a des bateaux, ils sont revenus sans aucun mort, et puis il y a des bateaux où une petite épidémie de choléra est passée par là, et en Amérique, il a fallu refaire tout l'équipage de A à Z, parce qu'il n'y a que le capitaine qui a survécu, quoi.
Il y a des bateaux qui ont pris des femmes, donc ils ont coulé.
Exactement. Puis il y avait des lapins. Non, c'est pas des lapins qui portaient
malheur. C'est le lapin qui portait.
Ouais, voilà, qu'il y avait des lapins à bord.
Oui, parce que ça mordillait les cordes.
Saloperie. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, pour conclure, Hicham, il y a de la piraterie encore actuellement, et je ne vous parle pas de cyber-piraterie, je vous parle de piraterie actuelle qui est vraiment totalement différente. Parce que, déjà, les pirates d'aujourd'hui, ils serrent les dents, parce que, il y a tous les radars, enfin... on a bien les moyens de les défoncer, les pirates, aujourd'hui, par rapport à l'époque. Donc, il y avait, ça, c'était vrai, il y a surtout 10 ans, au niveau de la Somalie. La Somalie, avec l'Afrique, ils sont bien, bien chauffés là, pour éradiquer les pirates au niveau de la Somalie. Et il y a moins de soucis. Aujourd'hui, c'est beaucoup aux alentours, toujours quand même un petit peu du golfe arabique. Le golfe de Guinée, apparemment, depuis quelques années, c'est l'enfer au niveau de la piraterie. En Asie du Sud-Est et au sud des Philippines. J'ai vu ça, j'étais là. C'est rigolo, c'est pas loin de là où on était. Dis donc, on a eu de la chance avec ce voyage. C'est fou, hein. On est rentrés en
Mais ils s'en prennent pas aussi de ouf aux bateaux de migrants et tout.
De ce que j'ai pu voir, c'est surtout les navires de plaisance. Okay. C'est les riches millionnaires américains.
Voilà. Alors, ça va.
Tout va bien. Et moi, je trouve que c'est des sacrés couillus parce que les porte-conteneurs également. Et tu sais, il faut y aller quand même.
C'est plus chiant à décharger déjà.
Tu sais, enfin, je veux dire, si t'es sur ton canoë et tout, comment tu l'abordes, le porte-conteneur, quoi. Je pense qu'ils ont des plus gros trucs. Et parfois même, les plateformes pétrolières. Je trouve ça ouf. Voilà.
Ouais, il y a du challenge.
Et exactement. Donc, voilà pour mon petit sujet.
Trop cool.
Bah, trop cool, merci beaucoup. Ça m'a donné
juste, un... Tu fais un petit truc. Enfin, je sais pas si vous avez vu Captain Phillips.
Pas du tout.
Je le suis revu il y a une semaine, je crois. Je vous le conseille. Et c'est justement Tom Hanks. qui se fait choper par des pirates somaliens et très très bien.
C'est inspiré d'une histoire vraie, non?
Oui,
il me semble.
Oui. Donc je vous le recommande.
Mais le parallèle avec la piraterie en ligne est très intéressant aussi. Ouais,
okay.
C'est une autre histoire.
Un truc à faire. Hein. Oui,
mais c'est vraiment intéressant aussi la philosophie en fait qui est collée à la représentation du pirate. Qui est quand même une image sexy néanmoins de quelqu'un qui contourne la loi, etc.
Et oui, ce qui est moins sexy chez le hacker.
Bah si, justement, enfin, tu sais, t'as plusieurs types de hackers, mais t'as le côté aussi, on va...
Liberté absolue.
Voilà, liberté absolue, on va niquer aussi les puissants qui...
Mais il y a un côté un petit peu Robin des Bois, en fait, cyber Robin des Bois, qu'on donne aussi aux pirates, alors qu'en réalité, le pirate, c'est pas du tout un Robin des Bois, c'est pas du tout, on va redistribuer nos richesses aux pauvres, hein. Le pirate, c'est un gros égoïste.
Voilà. Dans les pirates en ligne, t'as les deux, quoi. C'est des gens qui font des trucs extrêmement égoïstes et des gens qui font ça pour le... Et le logo du parti pirate est un petit drapeau, d'ailleurs.
Oui.
C'est symbolique et c'est un P en forme de drapeau et tout. Voilà.
Très bien.
Oui, hâte d'explorer ça, en tout cas. Mmh. Et je vous propose de rester sur un truc pas tout à fait maritime, mais un peu aquatique.
Ah oui, il y a beaucoup d'eau quand même.
Ah oui,
il y a beaucoup d'eau. Et juste avant de commencer, je vais lire un petit poème québécois. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas prendre l'accent parce que je n'y arrive pas.
Eh bien, je suis content.
Allez. Ils sont allés chercher la loutre, ils sont allés chercher la loutre, mais la loutre ne veut pas sortir du trou.
Oui, il est mignon, monsieur Pignon.
Cet animal-là est de la pire espèce, Gibert.
Il est méchant, monsieur Brochant.
Ils sont allés chercher la loutre.
Très bien, ok, voilà. j'aime bien, très très chouette.
Merci.
J'ai
beaucoup,
déjà peur.
Il y a une métaphore, non?
tu vas voir, au fur et à mesure que je vais avancer dans mon sujet, je vais revenir dans mon jingle.
Mais c'était ton super jingle.
Mais oui.
Il était vraiment génial. Mais
d'accord, tu sais quoi,
on le vraiment remet. Super.
Oui, il est mignon, monsieur Pignon.
Cet animal-là est de la pire espèce, Gibert.
Il est méchant, monsieur Brochant.
Ah, c'est chercher la loutre, sans aller chercher la loutre ne peut sortir du trou.
Très bien.
Bon.
Qu'est-ce qu'ils doivent être heureux, tes collègues, avec ce que t'écoutes. Mais vraiment, une petite pensée très émue pour
en
eux.
En plus,
quoi.
Ils sont trois et tous les trois, je dis « Regardez mon jingle !» Je l'ai mis trois fois, enfin bref. Bon, allez, trêve de galijade. Pour une fois, je vais essayer de faire une belle intro. Non, je rigole, je vais raconter ma life. Donc, d'où est venue l'idée de faire un sujet sur les loutres? Il y a quelques temps, j'ai match sur une appli de rencontre avec une personne qui a mis dans sa bio... Oui, je t'ai dit, je vais vraiment raconter ma vie. Qui a mis dans sa bio un truc dans le genre « Je suis fasciné par les loutres ». Je me suis dit bah, « Trop cool !» Du coup, je joue la carte de « Hey, tu sais... »
Je suis
mignon et humide.
Sorry. Non, pas du tout. Non, mais j'ai joué la carte de « Tu sais, je suis un chroniqueur animalier dans un super podcast.
» J'ai très envie de te chroniquer.
Oh là là,
Attends, je note.
Ça fuse.
Non, quel fin poète.
Du coup, je lui demande, tu sais, pour éviter le salut, ça va, je lui demande qu'est-ce qui est si fascinant avec la loutre. Je comptais en faire un sujet en plus. Mmh. Et là, bam, elle m'a matché. Voilà, ça résume très bien ma vie sur les applis de rencontre, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Du coup, comme ça m'a quand même intrigué, j'ai fait mes propres recherches comme un garçon. Un grand garçon.
Ouais. C'est quoi faire ses recherches comme un garçon? T'as fait des pompes en même temps. La réalité.
Ouais, c'est ça, à chaque fois que je descendais, j'appuyais avec mon nez. N'importe quoi, comme un grand garçon. Du coup, donc la loutre est un mammifère carnivore de la famille des mustélidés, qui lui-même vient du latin mustela, qui veut dire belette. Nutella. À ne pas confondre avec la pâte à tartine. En gros, elle vit en moyenne entre 5 et 10 ans, mais elle peut vivre jusqu'à 20 ans en captivité. Et ceux qui ne voient pas à quoi ressemble une loutre, mais en fait, c'est un phoque sur pattes, en gros.
C'est carrément plus mignon.
Du coup, c'est complètement con pour les gens qui ne voient pas ce que c'est qu'un phoque.
C'est moins fatou.
Bah, s'ils ne voient pas c'est quoi un phoque, bah, imaginez, vous prenez une boîte, vous mettez une belette, un crocodile, un castor, un chat et un chien.
Okay.
Je vais m'expliquer.
Crocodile.
J'y arrive. Okay, donc, la belette, bah, c'est mustélidée. Castor, bah, ça passe son temps dans l'eau, c'est à peu près la même taille, tout ça, tout ça. Le crocodile, bah, c'est court sur pattes et elle peut être très très dangereuse. Et puis le chat et chien, bah, c'est mignon. Mais bon, on fera d'autres rapprochements un tout petit peu plus tard. Donc, il existe 13 espèces de loutres différentes. La loutre d'Europe est celle qu'on appelle la loutre commune. Elle pèse entre 6 et 15 kilos, elle mesure 1,20 m. Et la queue fait le tiers de sa taille.
Un peu comme... Pardon. Pardon, excusez-moi.
Allez, c'est parti. On se lâche.
Surtout qu'il y a d'autres en plus taille. Donc, donc la plus petite loutre en taille adulte, hein, c'est la loutre asiatique à griffes courtes. Elle mesure 90 cm en moyenne et elle pèse 5 kg.
Ok, c'est donc,
oh, c'est, 5 kg, c'est pas énorme. Mais par contre, donc la plus grande loutre s'appelle la loutre géante.
Oh bah dis donc, ils ont bien choisi le nom. Ils sont creusés, les gars.
Hey, elle peut mesurer jusqu'à 1,80 m quand même.
Non,
ah, j'avoue. Belle bête.
Mais c'est où, c'est en Australie?
Je ne sais
pas.
C'est
beaucoup plus que moi. En tout cas.
Non, je crois que j'ai pas envie de dire une bêtise.
Tu peux trouver ce genre de loutre, quoi.
Mais ouais, donc c'est grand, mais c'est pas la plus lourde, bizarrement. Celle qui gagne le concours d'obésité est la loutre de mer. Elle pèse 41 kg. C'est 8 fois la loutre asiatique à griffes courtes.
Bah, j'aurais voulu te dire que c'était plus que moi. Mais
c'est quoi ce nom de loutre?
41 kilos, pour un être humain, c'est pas beaucoup.
Allez, on enchaîne. Donc, la loutre, elle a des palmes à la place des yeps. Elle est donc très à l'aise dans l'eau. Tellement à l'aise qu'au Québec, elle est appelée, encore une fois, t'inquiète pas, je vais pas faire d'accent. Au Québec, on l'appelle écureuil d'eau.
Ok. C'est pas comme les non les sea dogs, c'est les otaries.
Sea dogs.
C'est les otaries.
C'est les otaries.
Ouais. Ah, peut-être.
Mais je pense qu'avec la loutre, on peut passer notre temps à faire. C'est quand même incroyablement cute.
C'est peut-être pas tant que ça.
Mais arrête de briser en fait les animaux.
Mais non,
c'est
mais vous
horrible,
faites ce que vous sentez. Du coup, donc on continue sur sa morphologie. Son crâne est aplati, ce qui fait que ses oreilles. C'est là les oreilles. Ses yeux et ses narines sont tous sur le même plan. En gros, elle a un crâne 2D. Et tout ça, en fait, pourquoi? Ça lui permet d'entendre, de voir, de respirer
quand elle
de sentir tout ce qui se passe autour d'elle sans avoir trop à sortir la tête de l'eau.
Elle sort juste un
peu. C'est pas
bête. Je vois pas comment quoi, mais d'accord.
Bah, en fait, si t'as tout sur un plan, sur le même plan, bah, t'as juste à sortir ce truc-là et t'as tourné tes oreilles.
Comme le crocodile.
Ah, alors que nous, si on veut se faire ça, on doit sortir les trois quarts de notre visage.
Ouais, d'accord.
Surtout, elles peuvent le faire en faisant la planche. Alors que nous, du coup, on a les oreilles dans l'eau.
Son pelage, il est marron foncé. Il est un peu plus clair au niveau de son ventre et de son cou.
Ok.
Pourquoi c'est drôle?
C'est trop précis. Genre. Et sous les aisselles, c'est petit peu vert.
Non, mais en plus de ça, t'as certaines loutres qui ont des taches blanchâtres au niveau du cou et de la lèvre, et ça permet de les différencier entre elles, un peu comme on fait avec Édouard Philippe.
T'as dit les vers sous les aisselles, hein, quand même. C'est... Je veux pas voir tes aisselles.
Je suis pas une loutre.
Alors, petite stat incroyable de Ichouchou, l'homme, avec un grand H, a 1 million de poils sur la tête. Ok. La loutre, elle a 80 000 poils par centimètre carré.
Bah, en même temps, oui, c'est un animal poilu.
Alors,
elle a du pelage.
Non, mais 1 million sur ça.
Ouais.
Et puis, t'as carrément 80 000 sur ça.
Mais pourquoi tu nous as pas fait une conversion
mais
au
j'ai
centimètre
essayé,
carré
au début, j'ai voulu faire avec, pour convertir en stade de foot, mais ça faisait beaucoup.
Mais non. Mais...
Du coup.
Ok, bon.
Ok. Ouais.
Donc, tous ces poils, ça la rend imperméable. Et c'est bien pour ça qu'elle passe la plupart de son temps dans l'eau, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, elle peut rester jusqu'à 8 minutes sous l'eau.
Ah, ok.
Sans respirer.
Une question de souffle, ouais.
Et puis, donc, voilà, elle passe son temps dans l'eau. Par contre, contrairement à d'autres mammifères qui lui ressemblent, elles n'ont pas de couche de graisse sous leur pelage. Et du coup, bah, elles passent leur temps à faire sa toilette. tout simplement, pour entretenir ses poils.
Ah d'accord, okay. C'est les épaules qui... Ok, ça le porte. Parce que je me disais, genre, vu qu'elle n'est pas grasse, elle se lave.
Oui. Et non, il faut qu'elle les entretienne pour que ça...
Ça n'a aucun rapport, mon chat est très gras et il se lave.
Ok, parce que c'est, si ses poils sont en bon état, du coup, elle est mieux protégée du froid.
C'est ça.
Boum, allez, trois.
Bravo, bravo, bravo. Pour les chasseurs qui nous écoutent et qui ils savent comment est-ce qu'on repère une loutre, en fait, quand elle sort de l'eau, elle est toute mouillée, le titre, elle commence comme un chien, elle se secoue pour retirer quelques gouttes, et elle finit de se sécher sur l'herbe en se roulant comme un gamin pourri gâté qui n'a pas eu de PS5. Tu vois, mais je comprends sa peine, on l'attend tous. Hein.
Alors, s'il y a des chasseurs qui nous écoutent,
ouais, si vous voyez, si
ouais, mais c'est des chasseurs, ceux, les chasseurs qui nous écoutent en tout cas, ils sont gentils, ils chassent pas de vélo.
Si,
ils,
si vous voyez un truc qui
sort de l'eau, c'est pas des chasseurs, c'est des régulateurs, ça n'a rien à voir.
Mais si vous voyez un truc qui sort de l'eau et qui se secoue, attendez quand même 5 minutes avant de tirer.
Ouais, ouais, ouais. C'est clairement.
On sait jamais.
Bon, allez, on termine vite fait sur la morphologie. Elle a des dents très très puissantes, jusqu'à 2,5 fois plus puissantes que les dents de l'homme.
Mais attends, dents ou mâchoire?
Dents.
Ok. Donc plus résistant,
et justement, c'est ce qui est drôle, enfin c'est drôle pour moi mais pas pour elles, c'est que bah, elles ont des mâchoires mais elles savent pas mâcher.
Donc elles pressent les trucs sur leur bouche.
Du coup, en fait, non, elles mâchent, enfin c'est ça, un croque un animal ou un truc.
Elle gobe après ce qu'il y a dedans.
Elle essaye un tout petit peu, mais.
Ah d'accord, du coup c'est mignon.
Elle essaye quand même à chaque fois, donc tu vois, enfin c'est, je veux dire, il y a une volonté de réussir.
En gros, elle déchire en arrachant le truc et après elle avale quoi.
C'est ça.
Ok.
Où est-ce qu'on peut les trouver ?
Dans l'eau, tu l'as dit.
Mais oui, bien joué. Elles sont présentes sur tous les continents, sauf en Antarctique et en Australie. Il faut savoir qu'il y a un siècle, elles étaient considérées comme animaux nuisibles parce qu'elles bouffaient tous les poissons. En plus, elles ne bouffaient pas tout, genre juste elles croquaient et puis elles laissaient le poisson mourir. Du coup, bah.
Parce qu'elles savent pas mâcher.
Bon, tu sais, elle goûtait, elle fait « Oh non, j'avais oublié que j'aimais pas. » Puis elle en goûte un autre « Oh non, j'avais oublié que j'aimais pas le poisson.
» Et en fait, du coup, les pêcheurs, ils se sont rebellés, ils ont lancé un appel carrément pour les massacrer. Par exemple, pour les loutres de mer, elles sont passées...
Régulées.
Non, là, c'était vraiment, on n'en veut plus. On veut garder nos poissons. Du coup, bah, elles sont passées, les loutres de mer, comme exemple, elles sont passées de 300 000 à 2 000.
Oh putain de Dieu.
Carrément. Mais sauf qu'en 1972, elle est devenue une espèce protégée parce qu'elle était vraiment en voie de disparition, carrément. Et du coup, bah maintenant, il y a une petite recolonisation qui est en cours. En France, on peut les trouver vers la côte atlantique, le Massif central, le Périgord et en Bretagne.
En Franche-Comté aussi ?
Non, pas tant que ça. Mais c'est souvent en altitude, jusqu'à 1300 mètres de haut. Pour nos amis franc-comtois, c'est l'équivalent de la ville de Besançon superposée sur Pontarlier à 3 ou 4 pots de concoyer de près. Donc voilà, elle habite dans une catiche. Une catiche, c'est un mot du Schnorr, j'ai appris ça, c'est au sud de l'île.
Une maison ?
C'est une carrière souterraine. C'est une carrière souterraine. Et en fait, elles ont le choix. Soit elles arrivent à avoir un permis de construire. J'écris des blagues de merde. Soit elles arrivent à avoir un permis de construire et du coup, bah, elles creusent pas loin de la berge avec leurs griffes qui sont assez puissantes aussi. Soit elles font appel à, à Valérie d'Amido. Je redécouvre mon sujet. Je te jure.
Non, mais... J'avais oublié. Oh non.
Soit elles font appel à Valérie d'Amido pour rénover le creux d'un arbre. Ou sinon, une autre solution, elles squattent le terrier d'un autre animal, carrément.
Mais ouais, sans l'accord de l'autre animal ?
Non, bah en général, il n'est pas là.
Bah, ça dépend, si elle arrive à signer un bail.
Qui va à la chasse, perd sa place. Hein. Bref, une fois qu'elle trouve un lieu qui lui plaît, bah, elle signe le bail en urinant autour de sa baraque. Un peu comme nous, quoi.
Mais j'ai fait pareil pour
moi. C'est un peu comme les chiens, sauf que le chien, bah, lui, il urine sur un objet en particulier. Genre, cet arbre, c'est le mien. Mais en fait, la loutre, c'est différent. Elle chie tout, elle pisse et elle chie tout autour de sa baraque. Mm-hmm. Et en mode, genre, toute cette parcelle m'appartient carrément. Et ça peut être facilement être senti dans un rayon de 1 km. Ça fait une surface de 4 km carrés quand même.
Ah ouais.
Ouais. Pour te dire à quel point ça sent, leur excrément a carrément un nom. On appelle ça l'épreinte.
Après ça, du caca.
Les cacrottes. Non, ça s'appelle l'épreinte. Et ça, sa propre odeur. Parce qu'en plus, apparemment, ça pue pas tant que ça.
Bah, 1 km, enfin...
Non, mais
après, je ferais pas un pot pourri de merde de loutre non plus. Hein, non,
Le jour où je fais un caca qui sent 1 km, je pense que je vais te faire un nom aussi. Hein, ah,
ton caca, il fait pas 5 km. Parce que sinon, je sais pas ce que t'as mangé. Mais...
Oh, wow.
Non, mais en fait, apparemment, ça sent un peu la violette avec une touche de miel et une légère odeur de poisson.
Qui t'a dit ça?
Un scientifique sur un site que j'ai trouvé, genre
les caca.net.
Le castor.net.
Non, c'est un truc avéré. Mais du coup, voilà, c'est normal qu'il y ait une odeur de poisson parce qu'elle en mange. Oh, tradition de malade. Elle mange quoi d'autre?
Des poissons.
Elle se nourrit principalement de poiscailles.
Bah, et du miel et des violettes, tu viens de le dire, globalement.
Pas vraiment, non. Je sais pas d'où. Enfin, si, la violette, je crois qu'elle en bouffe. Mais le miel, non, pas tant que ça. Mais bref, donc, si tu veux plaire à une loutre, par exemple, Elias, tu l'emmènes au resto et tu lui commandes ses plats préférés.
C'est de prendre de la drogue quand tu
c'est l'anguille. J'ai passé une longue semaine, ok, s'il te plaît.
Ah, très bien, ça c'était
fun. Donc, elle kiffe l'anguille, l'épinoche ou la truite. Et pas la truie, comme j'ai écrit. elles sont super intelligentes. Quand elles vont nager en groupe pour aller pêcher, elles nagent en forme de V. Genre, ça fait un entonnoir et du coup, ça...
Celle qui est tout au fond, t'as qu'elle récupère.
Voilà, c'est la plus grosse, c'est la loutre.
Donc, elle vit en groupe.
Pardon ?
Elle vit en groupe.
Elle vit en groupe, mais pas tant que ça non plus. Enfin, c'est une famille, mais chacun garde ses distances quand même.
Une famille française, quoi. Gratos de ouf.
C'est ça. Mais bon, de toute façon, elle ne fait pas la fine bouche parce qu'elle mange aussi des insectes, des grenouilles, des baies, des écrevisses ou des crustacés.
Ah bah c'est mais quel fin gourmet.
Elle varie les plaisirs.
Peut-être que son caca sent le miel parce qu'elle mange des abeilles.
Des
abeilles.
Peut-être. Il veut une explication pour ce miel.
C'est possible.
Bon, petit instant mignonnerie pour ouvrir les crustacés. En fait, comment est-ce qu'elle fait? Elle se couche.
Tape sur son ventre.
Elle prend un caillou qu'elle pose sur son ventre quand elle est en train de flotter, et puis elle casse, et puis elle bouffe.
Ça fait très Homer Simpson.
Ouais, ça fait un peu moins quand je suis déprimé, mais avec un pot de glace à la place de... Enfin bref.
Et tu tapes sur un caillou, tu vas te dé...
Moi, quand je suis déprimé, je vais à la rivière et je tape un crustacé.
Je vais dans la baignoire et puis...
Il faut que tu nous appelles quand ça va pas. Hein.
Non, mais là, ça va beaucoup mieux.
Je pense que c'est un appel à l'aide. Là.
Ouais. Ouais. Après. Bon, par contre, quand la loutre n'a pas grand-chose à manger, genre Ramadan surprise, et qu'elle a oublié de commander sur Deliveroo avant 21h30, elle peut manger d'autres rongeurs, même des oiseaux. Genre, c'est dingue.
Ouais, d'autres rongeurs comme des oiseaux.
Ouais. Non, mais...
la fameuse hamster.
Non, mais... enfin. Il ne faut pas déconner avec une loutre.
Ça grimpe aux arbres.
Don't mess with the loutre.
Elle peut bouffer un putain de canard, frère.
Ah, bah ça ne m'étonne pas.
C'est... Non, mais elle est assez rapide.
C'est pas tous un canard.
Mais en même temps, un canard niveau défense, c'est pas ouf. Donc,
ouais, mais ça va vite aussi un canard. Ça, genre...
Ouais, mais une loutre, ça trace aussi quand même.
Aussi. Parce qu'elle a des palmes à la place des yep. Ouais.
Ouais, mais les canards, il a des palmes à la place des palmes. Enfin, globalement.
Des palmes à la place des palmes.
Ouais, globalement.
Bon, allez, une petite info qui va faire plaisir à l'infini qu'elle crotte. La loutre atteint la majorité sexuelle à 2 ans ou à 3 ans maximum. La femelle et le mâle, on va pas, hein, la femelle et le mâle font des chocs à pic généralement dans l'eau, un peu comme Loana et Jean-Edouard dans Love Story.
Loutre Story.
Par contre, j'adore cette expression, font des chocs à pic.
Ah bah.
J'ai ressorti.
Et je l'ai pas inventé, par contre. Hein.
Ouais, c'est rapport à des céréales, je sais pas si tu connais. C'est gros mansplaining.
Non, mais je veux pas que le lobby des chocs à pic me tombe dessus.
Je me donne envie de chocs à pic maintenant. Mais c'est parce que j'ai pas mangé.
Tout à l'heure, je parlais justement de recolonisation des loutres. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps puisque le mâle et la femelle ne passent que quelques jours ensemble. C'est tout de même plus que mon match avec la meuf. La gestation ne dure que 60 jours. La maman peut porter jusqu'à 3 loutrons, voire 4 vraiment au maximum quand c'est exceptionnel.
Elle doit couler.
Un loutron.
Un loutron.
C'est trop mignon.
C'est trop mignon. Et puis en anglais, ça se dit, ça se dit comment? Kitten. Non, kitten ou pop.
Okay,
comme un chaton ou un chiot. Okay. Et je trouve ça mignon aussi. Du coup, bon, donc la maman, elle allait le loutron et prend soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne adulte, soit entre 6 mois et 1 an et demi. C'est mignon. Mais attention.
Oh là là.
Attention, comme l'a dit Thierry Lhermitte dans mon magnifique jingle, oui, il est mignon, monsieur Pignon. Mais oui, il est aussi méchant, monsieur Brochant. Elles peuvent être très, très dangereuses. Genre, si vous prenez avec votre chihuahua pas loin d'une clairière et que vous tombez face à face à une loutre,
Eh ben, elle peut bouffer votre chihuahua.
Exactement, il y a fort moyen qu'elle croque votre petit rat domestique. Je vous rappelle qu'elle peut bouffer un canard. Donc, ce n'est pas, c'est pas votre chihuahua qui va...
Je rappelle que le chihuahua ne peut pas plier les pattes. Donc,
C'est vrai.
1,80 m de loutre, potentiellement, ton chihuahua.
Ah, ouais.
Ouais, mais après, c'est un apéro, quoi. Je ne suis pas sûre que lors d'une randonnée en Bretagne, tu croises une loutre d'1,80 m. Enfin, je peux
que
me tromper,
crois.
Mais...
Que tu crois.
Et puis surtout, si tu te balades avec n'importe quel chien, je pense qu'une loutre d'1,80 m, tu te barres.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a carrément des histoires qui racontent que des loutres sont aussi des violeurs. Des violeuses, je ne sais pas comment on dit, violeuses, vu que c'est une ou l'autre.
Ouais, ouais, ouais. Bref.
Bon, elles violent.
Elles
violent d'autres animaux, pas les êtres humains.
D'autres espèces.
Ouais, parce, pour prouver qu'elles sont supérieures.
Oh là là. Voilà,
c'est un peu comme les hommes, quoi.
C'est pas faux.
Elle est glauque parce qu'elle est vraie, mais.
Ouais, malheureusement. Mais de toute façon, honnêtement, si jamais je tombe face à face avec une loutre, bah, rien qu'à l'entendre, je ne serais pas rassuré. On écoute un peu. Là, il faut dire qu'elle est contente en plus.
Ça va?
Moi, je vois ça. Genre, imagine, tu rajoutes
mais c'est
un.
C'est trop cute!
On dira jouer pour chien.
Mais c'est hyper cute!
Oh non, on dirait le rire de Satan, moi, je trouve.
Ouais, on est d'accord.
C'est trop mignon!
Non, c'est maléfique comme rire.
C'est trop mignon! Ouais, j'ai envie de faire Oh, le chihuahua, non!
C'est le rire de l'arnaque, moi, je trouve.
Bah, moi, perso, je ferais pas le malin. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même mignon. Et du coup, je vais finir avec une petite. Un petit point mignonnerie quand elles font la sieste dans l'eau et pour pas perdre ses copains
elles
se donnent la main
voilà. mais c'est tellement chaud.
Il y a aussi une autre méthode, elles prennent des algues et elles s'attachent les yep.
C'est sûr qu'elles font pas du chibéry plutôt.
non mais vraiment elles s'attachent les yep et comme ça bah, même si elles sont portées par le courant
elles
peu importe
ensemble.
Où est-ce qu'on ira, on ira ensemble.
C'est trop intelligent, enfin,
ultra mignon.
C'est trop pipou.
Oui, c'est trop cute.
Bon, bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ces bons sentiments de petites loutreries, là.
Mais oui.
Ça m'a donné envie de voir, bah, grâce à vous, Pirates des Caraïbes et des documentaires.
Bah, moi, c'est horrible. Maintenant, j'ai l'image d'Hicham dans sa baignoire en train de se taper. Ça va? Bon, j'ai un moral de loutre.
En train de se taper des pistaches sur le bide.
Je me sens un peu loutre, ces temps-ci.
Mais ouais, non, la prochaine fois que ça va pas, appelle-nous. Hein,
ça marche, pas de soucis.
Mais merci beaucoup, c'est très très chouette.
Et merci à vous.
Et puisque, bah, bon, malheureusement, ce n'est que partir.
C'est bientôt l'heure de l'apéro, et du coup, il faut qu'on rentre pour que.
Exactement. Mais ça va être la fin de ce début de couvre-feu, hein, globalement, ça devrait rien dire. Mais oui, on va devoir mettre fin à cet épisode. Mais c'est un énorme plaisir. Et puisque je l'avais oublié à l'épisode précédent, où est-ce qu'on peut retrouver Manon Bril? Mon Dieu!
Et bien sûr, YouTube. 1, 2, 3. La chaîne, c'est une autre histoire. Et sur les réseaux sociaux, en général, j'ai mis Manon Bril QUA. Il fallait pas s'arrêter, c'est facile là-bas. Enfin. C'est UAH, comme c'est une autre histoire. Instagram, c'est ça.
Ah.
Twitter, c'est Bril Manon. Mais sinon, partout, c'est Manon Bril QUA. Et en plus, c'est rigolo, parce que ça fait QUA. Voilà.
Cool, ben voilà, on vous recommande ces contenus, c'est trop trop cool.
Tout
et puis, ben, nous, dans tous les cas, on vous encourage à nous mettre des étoiles, c'est trop gentil, à nous noter, à nous envoyer des commentaires, de l'amour, des likes, des.
Ah merde, mauvais bouton. Tu sais quoi?
Oui, il est mignon, monsieur Pignon.
Cet animal-là est de la pire espèce, Gilbert.
Il est à se tromper.
Sans aller chercher la loutre. Sans aller chercher la loutre.
Voilà.
Bon, vous voyez à quel point on ne me respecte pas. Donc, je vous demande encore une fois de nous envoyer de l'amour. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Et on vous souhaite de vous bien vous porter.
Portez-vous bien.
Ouais, okay. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns les unes des autres. Et on se retrouve très vite.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.